Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, vous pouvez voir mon poster sur la diapo à droite. Mon poster s'inscrit dans le cadre de mon projet de doctorat qui vise à reconstruire le socio-écosystème nilotique d'une partie de la rive occidentale de Louxor, appelée depuis l'Antiquité Memnonéia. Il s'agit d'une région géographique administrative dont les limites sont au nord. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Comme ça, je vais montrer la photo, voilà. Au nord, le Ramesséum. À l'ouest, la nécropole thébaine. Au sud, les temples funéraires des Minétabou. Et à l'est, le Nil. Les noms Memnonéia et Dou aux temples funéraires qui sont situés à la lisière entre la partie désertique et la partie cultivée, appelés Memnonius depuis l'époque gréco-romaine. Du point de vue géologique, la zone d'étude est une plaine alluviale convexe de 5 km² environ. Cette plaine, délimitée par les cours principales du fleuve et les collines arides, s'est progressivement agrandie pendant l'Holocène par les dépôts des sédiments fins, lors des débordements des crues annuelles jusqu'à la création du barrage d'Assouan. La caractéristique essentielle de mon travail est une approche transdisciplinaire impliquant, comme vous pouvez aussi le lire en bas, des données cartographiques, des données papyrologiques et géarchéologiques. Je présente ici l'importance de l'apport du géoréférencement et de l'analyse de certaines cartes choisies parmi celles qui ont été retenues pour mon projet de doctorat. Sur les posters, vous pouvez voir la carte de Pierre Jacotin, de la description de l'Égypte, celle de la noix des Regnaux de Bissy, datant de la fin du XIXe siècle, et enfin celle de Georges Swainsford de 1914. Les cartes topographiques produites avant les projets agricoles et hydrologiques réalisés par Mohamed Ali, et on peut passer à la diapositive suivante, sont particulièrement intéressantes pour lire et comprendre les modifications du paysage. Un exemple, les systèmes des canaux et des bassins d'irrigation décrits par Wilcox, c'est un ingénieur britannique qui a beaucoup travaillé en Égypte. Il les a datés de la période pré-dynastique et en fait, ce système des canaux a été créé au début du XIXe siècle, justement pendant la période de Mohamed Ali. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, les cartes de la description de l'Égypte et d'autres volumes de la même période sont si importantes. Comme vous pouvez le lire dans la colonne droite du poster, il y a des changements naturels et anthropiques. Parmi les premiers, on trouve les îles nouvelles, c'est-à-dire les îles qui se forment parfois très vite à partir des barres du Nil, notamment après les crues annuelles. On retrouve ce type de formation également dans les sources démotiques de la période ptolémaïque que j'étudie. Et nous savons qu'il s'agissait des terres particulièrement fertiles. La formation des îles est un élément tout à fait essentiel pour comprendre l'environnement nilotique et c'est pourquoi je l'ai souligné dans mon poster. Et vous pouvez voir dans les deux images ici l'exemple le plus visible, l'île de Bayrat, marquée d'un triangle jaune. Et actuellement, cette île fait partie de la rive ouest. Donc, ce sont les résultats préliminaires de mon étude. Évidemment, je vais devoir avancer encore sur la cartographie et sur les données géoarchéologiques. Et je travaille en parallèle sur l'analyse lexicographique des documents démotiques qui contiennent des éléments agricoles ou topographiques mentionnés, donc qui m'aident à reconstruire cette partie de la berge ouest de Louxor. Évidemment, en attendant d'aller sur le terrain pour des analyses plus précises des sols. Merci pour votre attention.
Donc Stéphanie Ravecchia, je suis à Georgia Tech Lorraine à Metz et je vais vous présenter le poster du travail de collaboration que nous avons fait avec Claudia Oliveira, qui est du LIEC à Metz aussi, pour faire de la détection automatique de plateformes charbonnières dans des images LIDAR aéroportées. Donc, on va commencer par un peu de contexte, puis la méthode et ensuite les résultats. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces plateformes charbonnières? Bien, ce sont les traces des anciens sites de production du charbon. L'objectif principal de la détection et de la quantification de ces charbonnières, c'est d'évaluer dans quelle mesure cette activité de production de charbon a impacté les zones forestières dans le passé et comment ces forêts ont évolué depuis. La plupart des études qui visent à quantifier ces charbonnières sont basées sur de petites zones dans lesquelles on recherche ces plateformes sur le terrain. Et grâce aux images LIDAR aéroportées, on peut maintenant développer de nouvelles méthodes. Donc, comme on peut le voir sur la figure 1, vous pouvez voir deux photos de charbonnières dans des zones forestières et vous voyez l'image LIDAR associée. On voit que ces charbonnières ont une forme caractéristique, circulaire à ovale, qui est assez reconnaissable dans ces images LIDAR. Donc, notre objectif, c'est de trouver une méthode qui soit rapide et fiable pour détecter ces charbonnières. Et notre zone d'étude, c'est la zone forestière que vous voyez sur la figure 2, qui est située dans le sud de la Meuse. Vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, voilà les deux méthodes que nous avons utilisées. La première, qui est sur la partie haute du slide, c'est l'inspection visuelle des images dans QGIS. C'est-à-dire que l'intégralité de la zone d'étude a été inspectée visuellement. Les charbonnières potentielles ont été repérées et marquées d'un point dans QGIS. Puis, une validation sur le terrain est réalisée, c'est-à-dire qu'une zone qui contient de nombreuses charbonnières potentielles est sélectionnée et intégralement couverte sur le terrain. Les charbonnières qui ont été détectées visuellement sont validées, et celles qui n'ont pas été détectées visuellement, mais qui le sont sur le terrain, sont ajoutées à la base de données. Et ensuite, il y a une deuxième méthode que nous avons développée, c'est le développement d'un détecteur automatique de charbonnières. Dans ce cas-là, il s'agit d'entraîner un réseau de neurones, donc un détecteur d'objets, à détecter les charbonnières dans les images LIDAR. Pour ça, on crée un jeu de données d'entraînement qui comprend des images RGB obtenues à partir des images LIDAR, puis les labels, les bounding box, associés à ces images. Donc ces box sont obtenues grâce à la labellisation qui a été faite par l'inspection visuelle. On entraîne le détecteur de charbonnières sur ce jeu de données, puis ensuite on l'utilise. C'est-à-dire qu'on lui donne des images dans lesquelles il va détecter des charbonnières potentielles, qu'on convertit ensuite en coordonnées géographiques et qu'on réimporte ensuite dans QGIS. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà un aperçu de nos résultats. La première méthode, c'est-à-dire l'inspection visuelle, a permis de détecter 2641 charbonnières dans la zone d'étude. Et le travail de terrain, lui, a permis dans la zone sélectionnée de détecter 288 charbonnières. Donc parmi celles-ci, 160 sont des validations de charbonnières qui avaient été détectées visuellement et 128 n'ont été détectées que sur le terrain. Pour la deuxième méthode, le détecteur automatique de charbonnières, il y a deux métriques à retenir, le recall, c'est-à-dire la proportion d'objets labellisés comme des charbonnières et qui sont détectés comme tels. Ce recall n'est pas très élevé, 65%. En revanche, le FDR, donc le False Discovery Rate, qui représente la part de fausses détections parmi l'ensemble des prédictions, lui est assez élevé, 38%. Donc, ce taux de faux positif assez élevé nous a fait poser la question, est-ce que ces fausses détections sont réellement fausses ou bien est-ce qu'elles correspondent à de vraies charbonnières, mais qui n'avaient pas été détectées visuellement? Donc, nous avons un élément de réponse figure 4. Donc, ça ne se voit pas très bien sur le partage d'écran, mais les images en question sont disponibles sur le poster. Donc sur l'imagette que vous voyez en haut à gauche, il y a un point gris qui correspond à une charbonnière détectée visuellement, mais ratée par le détecteur automatique. Et en haut à droite, c'est l'inverse, il y a un point noir qui correspond à une charbonnière détectée par le détecteur automatique, mais qui n'avait pas été détectée visuellement par l'expert. Donc la suite de ce travail sera de faire une validation sur le terrain, donc sur une zone sélectionnée. Les prédictions du détecteur automatique seront validées, puis il sera amélioré et enfin on pourra le déployer sur une zone forestière qui n'a pas encore été étudiée. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on va encore faire un saut disciplinaire avec ce poster. Moi, je vous présentais un travail qu'on a mené sur un modèle hydrologique distribué à INRAE Riverly à Lyon, notamment le diagnostic de la composante souterraine à l'aide de signatures hydrologiques. Donc, on va pouvoir passer à la première slide. Donc, je présente dans le... Voilà, merci. Je vais présenter vraiment les éléments de contexte dans cette présentation et les résultats précis sont sur le poster. Donc, le modèle hydrologique distribué que je présente ici s'appelle J2000 Rhône et c'est un modèle qui a été construit pour l'étude de la ressource en eau sur le bassin du Rhône. Donc, un bassin versant de à peu près 100 000 km² qui regroupe la France et la Suisse. Donc, on est dans un contexte de bassin versant hétérogène, aussi bien au niveau du climat qu'au niveau de l'occupation des sols, de la géologie, etc., et qui est également fortement aménagé par l'homme. Et donc, c'est un modèle dans lequel nous avons pris en compte les principaux effets anthropiques, notamment tout ce qui est barrage pour la production hydroélectrique, l'irrigation et la consommation d'eau potable en tant qu'usage de l'eau principaux. Donc, vous avez sur la droite une carte du bassin du Rhône tel que représenté dans le modèle avec le réseau hydrographique qu'on prend en compte, les barrages qui sont en bleu clair. Et les petits points noirs sont les 234 stations de contrôle, mesure de débit, sur laquelle on va vérifier en fait la qualité des simulations de notre modèle hydrologique. Donc, J2000 Rhône, c'est un modèle distribué, ça veut dire qu'il considère les différents éléments du paysage de façon explicite et également de façon explicite les différents processus hydrologiques qui peuvent arriver. Donc ça, c'est sur le schéma de gauche. Donc de la précipitation à l'interception par la végétation, la partition pluie-neige, l'évolution du manteau neigeux, la fonte de la neige, l'infiltration dans le sol, le ruissellement à la surface du sol, la percolation vers la nappe et le routage vers le réseau hydrographique. Donc on a tout un ensemble de processus en fait qui sont paramétrés par ce modèle hydrologique. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Voilà. L'objectif en fait de ce modèle hydrologique sur lequel on travaille nous depuis 2013, c'est vraiment de construire une plateforme de simulation qui soit ouverte à des collaborations multidisciplinaires. Donc nous on a une base qui est la ressource en eau puisque c'est notre métier, mais donc on a déjà des projets qui ont commencé qui s'appuient sur ce modèle dans le domaine de la géographie, de l'économie, de la sociologie, tout ce qui est prise en compte de l'évolution de l'occupation des sols au fil du temps, revenir sur le passé et aussi faire des projections sur le futur, les usages de l'eau et notamment les concurrences entre usages et les stratégies d'adaptation dans un contexte de changement climatique et de projection de changement global. On a également un projet... Ouh, j'ai pas fini. Pardon. Un projet en lien avec la géomorphologie, l'hydraulique et la chimie qui a trait au transfert sédimentaire et contaminants associés du bassin versant à la mer. Et on a aussi commencé à travailler avec des biologistes et des écologues sur les questions de température de l'eau et d'habitat piscicole en lien avec l'évolution des débits dans les cours d'eau dans un contexte de changement climatique. Donc ça, c'est plus pour vous donner une grande image générale en fait, de ce sur quoi on travaille avec ce modèle et en quoi ça peut être intéressant justement pour ce colloque. Et donc dans le poster, je détaille en fait, des résultats qu'on a obtenus plus sur la validation du modèle hydrologique en tant que tel et comment on s'y prend sur une échelle spatiale et temporelle aussi grande. Voilà, merci.